Joseph, je vous ai fait tous venir ici parce que le séminaire, on a fait des questions logistiques avec eux ensemble pour la partie du jour qui vient. Donc il faut que je vous raconte ce qu'on avait prévu de faire normalement pour qu'on comprenne ensemble comment faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux être en séance plénière avant d'attaquer l'exercice à comment parler. Donc normalement, à partir de ce moment, on fait. Fait un petit projet d'un prototype de groupe et qui se base sur quelques calculs que justement on peut faire ensemble, donc un travail qui se fait en PDF, et ensuite une fabrication de l'article qui se fait dans le programme de l'école, et puis en dernière séance, un montage de cet objet qui est donc préparé, réalisé. Et uniquement, mais qui demande encore de l'assemblage, et puis un test. Or, on avait déjà prévu de ne pas faire le test parce qu'on s'est rendu compte que cela générait un assemblement trop important au niveau de la halle pour dessiner. C'est OK. Mais là, effectivement, on s'est rendu compte que le déroulement des deux séances qui viennent, telles qu'on les a toujours fait, serait un problème. Parce que pendant ces deux séances, vous êtes censé réaliser à la fois un calcul et un projet en travaillant avec vos ordinateurs en groupe. Et donc cela génère automatiquement une sorte de rassemblement autour de cet écran d'ordinateur. Donc, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir assurer ce travail, et je suis sûr que vous êtes en mesure de le faire, c'est effectivement de travailler en groupe avec vos ordinateurs, mais chacun avec un ordinateur différent. Vous pourrez toujours partager les écrans en vous appelant par exemple sur Zoom ou avec une autre application qui permet de travailler ensemble sur des ordinateurs différents afin de laisser en place la distance nécessaire pour la sécurité. Donc là, c'est à vous de parler. Alors, je connais les réflexes, tant qu'il y a un micro qui parle de toute une rose, je parlais avec mon voisin, mais là, ce n'était pas clair. Donc, je m'attends une réponse. Il faut que je répète la question. Êtes-vous capable de travailler en groupe de 6 avec chacun un écran d'ordinateur différent et en partageant en ligne en même temps le travail que vous faites?
Non,
vous n'êtes pas capable de faire ça. Alors, avez-vous Zoom. Vous savez partager les écrans? Bon, si vous savez partager les écrans, vous avez Zoom, vous passez du côté du site. Vous savez faire. Qui reste qui ne sait pas faire? Ok, donc ça c'est possible. Alors, est-ce qu'on pourra le faire en classe ou est-ce que vous le ferez à côté? Ça c'est une question qu'on pourra traiter de cas par cas. Idéalement, on a dimensionné les heures de travail en classe pour que la plupart du projet puisse se dérouler en classe et donc avec l'assistance d'un enseignant, ce qui évidemment facilite le travail pour vous et nous permet aussi de comprendre si vous avancez correctement dans l'exercice. Donc à partir de là, je vous explique maintenant les problèmes et puis quand vous partirez dans la petite classe, l'idée c'est que vous sortez vos ordinateurs et vous commencez à programmer pour répondre en fait aux questions posées par l'exercice. Et c'est là que ça se fait en groupe, peut-être sur Zoom, en partageant les écrans. Alors, l'exercice, je vous ai mis sur le document un fichier qui posait déjà les questions par rapport au rendu individuel. L'exercice, c'est la réalisation de cette structure, dont vous avez aussi les images sous les livres. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez été informés. Les livres disponibles en ligne à partir de la bibliothèque d'électronique. Donc, ça veut dire que je pense que l'information est facile d'accès. Pour comprendre cet exercice, il s'agit de construire un onagone dont on voit ici une vue d'un écran horizontal. Il est chargé verticalement, donc il est chargé orthogonalement au plan du dessin. Et l'onagone est réalisé donc, sur 9 appuis avec des encastrements entre poutres, donc il y a 9 poutres qui sont encastrées l'une dans l'autre comme c'est indiqué. Pourquoi choisir cette structure? Parce qu'elle nous permet d'avoir 9 poutres qui sont toutes identiquement chargées. Donc, ça nous permet d'avoir 9 équipes qui produisent les 9 coupes d'un anagone et pouvoir faire un essai et puis avoir les autres 9 coupes et l'autre essai qui est fait par les équipes qui restent. Donc, avec 18 coupes, on peut faire les manies et chaque équipe aura exactement le même problème. Vous pouvez non seulement comparer les résultats, mais surtout on pourra établir qui a fait mieux son boulot parce qu'il a trouvé la coupe la plus légère. Qui porte la charge indiquée. Évidemment, pour porter la charge indiquée, ça signifie que quand on charge la structure avec la charge prévue, il n'y a pas de rupture. S'il y a une rupture, c'est que l'équipe qui a battu la route en question s'est trompée, elle a donc réalisé une route qui ne tient pas les efforts prévus. Voilà encore la nature de l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions derrière? Non? Ça va? Ok, bon, donc je vais passer à la suite, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le calcul. Vous avez un peu déjà vu parce que c'est le sujet de l'exercice individuel. Ces boutons ont une section rectangulaire creuse. Vous indiquez au tableau pour qu'un épaisseur de la paroi de 3 mm. Les dimensions sont indiquées à 1 mm. Donc, comme ça, on la réalise assez facilement par des coupes laser de plaques de MDF. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette section. Évidemment, puisque c'est des parois de tubes. Si on va voir masse, chaque paroi va se retrouver dans un état de contraintes différentes. Donc on va calculer sur la route le point normal qui sera 0, le moment fléchissant, les moments de torsion et les forces tranchantes. Donc les trois efforts non nuls vont donner lieu à chaque contrainte que je vous ai déjà indiquée dans l'exercice cette semaine et que vous avez déjà pu calculer dans certains points. Et donc, sur la base de ces champs de contraintes, on aura un champ de contraintes principales. Donc, la question fondamentale de cet exercice est de savoir dessiner les champs de contraintes principales. Une fois qu'on sait dessiner ces champs, il y aura une procédure à mettre en place pour identifier la structure la plus légère qui est capable d'assurer ce type de centre de charge, ce type d'écoulement de contraintes. Alors, pour ce qui est des efforts antérieurs dont je vous parlais, puisque c'est un problème statique et que à cette étape du cours de mécanique des structures, on n'a pas encore les outils pour les calculer, on va vous donner la solution. Alors, chaque poutre, on peut la voir comme un système isolé, dans laquelle il y aura une réaction à l'appui extérieur. Il y aura un effort transmis, donc là c'est la partie qui est soutenue par l'autre bout. Il y a un effort, la même effort qui est transmis par la bout appuyée. Il y aura une réaction d'appui et la même réaction sur la pièce terminale. Si on regarde en fait les non-agents, on peut constater que au niveau de l'équilibre de la poutre, on peut démontrer que la force que je mets ici est la même au niveau de la force verticale que je reprends là, et que la force que j'appuie ici est la même de ce que je reprends là. Ça se voit quand on écrit les équations d'équilibre et quand on résout le problème de la structure hydrostatique. Et donc, on obtient des diagrammes qu'on vous donne ici. Ceci est le diagramme du moment fléchissant, et donc le maximal et constant entre B et C varie linéairement entre A et B, et C et B'. Ceci est le diagramme du moment, donc on comprend qu'il y a un fort tranchant qui intervient, qui est non nul entre A et B et entre C et B', et qui est nul entre les deux. Et puis il y aura un moment de torsion qui est tracé ici, donc un moment de torsion il varie linéairement avec le maximum en valeur absolue aux extrémités de la branche BB'. Ça, c'est encore une fois les éléments de la solution qu'on vous donne calculer. À partir des efforts antérieurs, donc ils sont tracés ici, pardon, la solution est celle-ci, pas celle que je vous ai montrée précédemment, celle précédente était les structures isostatiques auxiliaires. Donc la solution est celle-ci. On a les moments fléchissants, les forces de torsion, les moments de torsion et les forces tranchantes. Et donc ils sont donnés, on a les valeurs aussi, Et donc, à partir de ces efforts-là, on peut calculer les contraintes. Donc, pour calculer la contrainte normale de venant du moment petit 5, pour appliquer la formule d'Énadier. Pour appliquer la contrainte tangentielle venant du moment torsion, il faut appliquer la formule de Brecht. Et pour appliquer la, calculer la contrainte tangentielle venant de l'effort tranchant, il faut appliquer la, la formule de Churaski. Donc, ces trois formules sont assez faciles en fait d'application. Ils vont nous donner des champs contraints qu'on peut tracer qualitativement dans la section droite. Donc ceci est les champs contraintes de la venant de la formule de Navier, donc contraintes normales dues à la flexion. On peut aussi les reproduire de telle manière à les voir sur toutes les branches. Cette représentation-là est connue comme une représentation de Lasso. Donc c'est intéressant pour une toute la paroi mince parce qu'elle nous permet d'avoir en chaque point de la paroi la contrainte en question. C'est toujours une contrainte normale. Mais évidemment, les deux représentations représentent la même chose. Équivalent. Et ici, nous avons les diagrammes de la contrainte tangentielle qu'on calcule grâce à la formule de Churaski, donc due à l'effort tranchant en les moments, les diagrammes de la contrainte tangentielle due au moment de torsion par la formule de Brecht et la somme des deux. Évidemment, puisque les contraintes de torsion circulent toutes dans le même sens, et les contraintes de l'effort tranchant circulent dans le sens de l'effort, il y a une branche sur laquelle elles se somment et une branche sur laquelle l'une se soustrait à l'autre. Et donc, globalement, la contrainte tangentielle n'est pas égale sur les deux faces de la courbe, n'est pas non plus égale sur les deux faces horizontales, et les diagrammes qualitativement sont du type indiqué. Évidemment, les valeurs numériques de ces diagrammes significatif, donc aux angles et ici le maximum, dépendront de la valeur de l'effort tranchant et du moment de torsion, et donc du point de la poutre, du point de la ligne d'axe de la poutre sur laquelle je suis pour faire le calcul. Tout ça, ça faisait partie de l'exercice individuel que vous aurez rendu. Afin de faciliter les représentations, il convient d'imaginer cette poutre qui est une espèce de boîte à quatre faces. On peut imaginer de l'ouvrir de sorte d'avoir une représentation bidimensionnelle, qui est celle-ci, dans laquelle les coordonnées le long de l'axe, donc les coordonnées de x3, sont lues ici horizontalement, et les coordonnées, la coordonnée verticale de cet axe est une axe qui court le long du profil de la touffe, et donc elle représente à la fois des composantes de type x1 et des composantes de type x2, en fonction de la face où nous sommes. Donc, en tout cas, la conversion géométrique d'une représentation à l'autre me semble assez évidente, mais s'il y en a d'entre vous qui n'ont pas compris, je vous prie de tout de suite de soulever le point comme ça on peut le traiter. Ok, ça c'est donc la conversion en question des coordonnées. Et alors, quand on regarde les champs contraints sigma tau et puis la contrainte de 13 carrés, donc racine carré et sigma carré plus 4 tau carré. On a des diagrammes aplatis, comme on a dit, en suivant la transformation qu'on a dit, qui sont de ce type-là. Donc on voit quelles sont les zones dans lesquelles la contrainte normale va dominer sur la contrainte tangentielle, les zones dans lesquelles ce sera l'inverse. Alors chaque fois que la contrainte normale domine, les lignes osatiques seront plutôt alignées avec l'axe de la courbe. Chaque fois que c'est la contrainte tangentielle qui domine, les lignes osatiques seront plutôt à 45 degrés avec l'axe de la poutre. Donc ça, ça nous permet de, déjà de regarder si on s'est trompé ou pas, parce que qualitativement, nous donne le résultat qu'on cherche. En tout cas, le résultat lui-même s'obtient facilement par les cercles de mort. Donc vous connaissez, j'espère, désormais la manip. Pour vous tracer un cercle à l'aide de deux points. Un point, c'est sur l'axe de tau égal 0, et c'est le point sigma sur 2, 0, qui est le centre du cercle. Et l'autre point, c'est ce qu'on appelle l'épaule. C'est le point des coordonnées sigma moins tau, où sigma et tau sont les valeurs de la contrainte normale et tangentielle au point où on trace le cercle des morts. Ici, dans cette image, c'est une petite précaution qu'on doit adopter pour éviter les erreurs dans le traçage des lignes. Mais c'est un détail dont on pourra parler plus tard dans les détails. Quand on fait cet exercice, 1. On peut aussi démontrer, la démonstration n'est pas faite au niveau académique, en cours, on peut aussi démontrer que les lignes isostatiques ont une propriété intéressante, c'est que là où la contrainte augmente, elle se resserre, et là où elle diminue, elle s'éloigne. Donc on est en train de parler de la contrainte de Tresca portée par la ligne. Donc une ligne isostatique représente une ligne dans la matière sur laquelle on a fait de la contrainte principale, elle pourrait être positive ou négative, car c'est une question. En tout cas, il y aura une cette ligne, si on suit la tangente à la ligne, on ne trouvera pas d'effort tangentiel transmis par la matière, seulement des efforts normaux. Donc des contraintes normales, pardon. Ces contraintes normales vont évidemment augmenter ou diminuer l'intensité le long de la ligne. Donc une ligne isostatique ne représente pas une ligne isovaleur de chaque contrainte. Attention, on ne va pas faire d'erreur. On l'appelle isostatique, pas isovaleur. C'est en fait une ligne de courant de chaque contrainte. Donc le concept, la définition de ligne isostatique, c'est la ligne qui est en tout point tangente à la contrainte principale et une ligne isostatique est caractérisée par le fait d'être tangente à une contrainte principale donnée. Donc là, il y aura la ligne isostatique qui est tangente à la contrainte max et celle qui est tangente à la contrainte min en 2D. Ces deux lignes, par ailleurs, en chaque point, auront la propriété d'être orthogonales l'une à l'autre. Et auront la propriété qu'on ajoute de s'éloigner et de s'écarter en fonction de la valeur de la contrainte de Tresca. Notamment, ils vont s'éloigner si la contrainte de Tresca s'est réduite et vont s'approcher lorsque la contrainte de Tresca augmente. Donc, on comprend qu'en regardant un réseau de lignes isostatiques, on a une vision synthétique de ce qui se passe dans la couche de la propriété de son état de contrainte. Parce qu'on voit à la fois les directions principales, et donc les directions sur lesquelles on a traction ou compression, et donc à 45 degrés, les directions sur lesquelles on a un cisaillement maximal, et aussi l'intensité de la contrainte de Tresca, parce que là où les lignes se resserrent, la contrainte de Tresca est plus importante, là où c'est loin, elle est plus faible. Si on fait cet exercice pour l'exemple qu'on est en train d'étudier, on obtient ça. Donc on se donne un écart entre lignes qui représente une certaine contrainte de Tresca, et puis on trace sur l'ensemble de la couche des lignes isostatiques suivant ce principe d'écartement. Voilà. C'est le moment que j'attendais pour vous montrer des exemples. Donc, en vous lâchant, on s'arrête sur cette image qui représente quelque part une sorte de résultat du calcul de l'évaluation principale. Et là, on peut vous montrer un exemple constructif avec des prototypes non travaillés. Donc ça, c'est la poutre non allégée. Toute la matière est là. C'est la connexion qu'on va utiliser pour les assembler dans les nanogones. Et surtout, c'est important de vous montrer quel type d'échange on s'attend de vous, c'est-à-dire quel type d'information on va devoir recevoir afin de pouvoir faire la fabrication. C'est quoi
directement ça? Je sais pas si
évidemment, c'est un point délicat quand on a une interface entre deux opérations différentes. Et après, je continuerai brièvement, puisque vous pourrez partir de la petite classe, avec qu'est-ce qu'on fait avec ces premiers passages. Donc, pour l'instant, ce qu'on vous a demandé de faire dans l'exercice individuel, c'est de vous placer en quatre points quelconques de ces plans et de calculer exactement dans ces quatre points les deux directions principales, donc en fait un biais dont les axes sont parfaitement directés, et la valeur de la contrainte de Tresca, qui représente de cette manière l'écartement qu'on a entre lignes. Vous pouvez constater que dans l'exercice en question, la contrainte de Tresca varie peu dans la zone de droite. En fait, on a une densité un peu plus importante dans la zone centrale haute,
Et puis c'est quasiment égal dans la partie basse, un peu partout. Alors, et puis on a une courbe spéciale très très faible dans la partie des gosses. On constate aussi que là où la montante de Fresca est plus faible, les lignes myosotiques s'amusent à tourner un peu plus. Donc il y a effectivement, c'est la zone où le moment fléchissant varie entre 0 et sa valeur max. Donc on a un fort tranchant. Et donc là où le fort tranchant est grand, c'est-à-dire vers la gauche, vers là, et le moment est nul, les lignes sont à 45 degrés. Et là où le moment fléchissant est grand et le fort tranchant est le même, donc vous dominez, je dirais, les lignes passent sur un angle de 0 à 90 degrés. Donc voilà un peu le sens de cette image. Alors ce qu'on voit ici, à cause de la torsion, c'est que les contraintes tendancielles sont toujours présentes et toujours assez importantes par rapport aux contraintes normales. Et donc on se retrouve avec un réseau qui est grosso modo partout, un réseau de carrés à 45 degrés.
Bonjour, je m'occupe du makerspace de l'école des ponts. Je vous expliquerai où il est si jamais vous ne savez pas où c'est à la fin. Moi je vais surtout vous embêter avec vos dessins et avec les formats des fichiers. Pour le reste, ça se voit avec le reste du cours. Pour faire simple, au makerspace, on fait juste attention à ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on trimballe. Ça serait bien de mettre des protections quand vous utilisez des trucs lourds. C'est le BABA, mais vous recasserez les pieds avec ça. On nettoie derrière soi, c'est le BABA, mais c'est un atelier, donc il y a plein d'autres gens qui viennent. On range les outils à l'endroit où on les a trouvés, c'est vachement mieux pour le suivant. On évite de manger parce que l'informatique et la nourriture, c'est pas extrêmement commun. Y compris pour les liquides. On travaille sympathiquement ensemble, toujours un peu mieux. Ça, on y passera. Voilà, alors pour aller vite, c'est vraiment le BABA, juste pour vous comprendre qu'est-ce que j'attends comme type de fichier. Moi, je veux du vectoriel et je veux pas des pixels, ça m'intéresse pas. C'est des formats qu'on a besoin pour la découpeuse laser. Ce qu'on va avoir besoin comme format, et je vais vous le répéter, c'est du DXF. Et de toute façon, je vais vous donner les moyens, au cas où, de pouvoir réviser même à la maison. Donc, pourquoi on veut des formats vectoriels? Parce qu'en fait, avec des formats vectoriels, on va pouvoir travailler des vecteurs. Et ces vecteurs vont garder leurs mêmes caractéristiques à l'infini. C'est-à-dire qu'on pourrait grandir à l'infini, le rapetissier à l'infini, il garderait les mêmes caractéristiques entre les points. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. Si jamais vous faites de la gravure, il faudra aller regarder qu'est-ce que c'est que faire du dithering, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez écrire des textes, il faudra réfléchir à ce genre de choses. Au pire, je serai encore là pour vous aider. Comment ça marche? Il y a un site, et ce qui est formidable, c'est que sur le site, il y a de la documentation. Donc si vous allez sur le site de Makerspace de l'école des ponts, alors vous allez avoir la découpeuse laser, et dans découper, sur la page de la découpeuse laser, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Consulter ». Et quand vous allez sur cet onglet, au miracle, vous avez des rappels de comment on utilise la découpeuse laser. Le minimum, la taille de la machine, donc les pièces qu'on va mettre dedans, les types de couleurs et leur impact, et ça je vais y revenir, et au cas où, le lien du guide de conduite. Alors ce qui est intéressant avec le guide de conduite, c'est pas juste nettoyer la machine, faire que ça marche bien, c'est aussi comment on envoie des fichiers à l'intérieur de la machine. Donc je vous invite à aller le lire. Pour rappel, ce que j'ai besoin comme format, c'est un DXF. Au pire, on peut utiliser un autre format qui s'appelle le PDF, qui est un format d'encapsulation. Et on doit faire attention aux couleurs qu'on va utiliser, donc nous on travaille en RVB, rouge, vert, bleu. Donc là c'est une image de Rhino, mais en gros vous aurez les mêmes choses à faire dans Autodesk, qui est à peu près la même façon de travailler. Vous créez des calques, et dans ces calques qui sont là, vous leur donnez des couleurs. Ces couleurs, elles sont absolues, ça veut dire qu'on ne peut pas donner n'importe quelle couleur. C'est soit 255 rouges, soit 255 verts, soit 255 bleus. Une fois que vous avez fait ces couleurs, alors il va falloir donner des caractéristiques à votre calque, puisque c'est ça qu'on va envoyer dans la machine, et c'est ce qui va faire que la machine interprète votre travail correctement ou pas. Donc, avec votre fichier qui est à peu près ce fichier-là, ça c'est un des exemples possibles de votre fichier, vous aurez un fichier avec donc un dessin des lignes extérieures. À l'intérieur, vous devrez optimiser les dessins que vous allez travailler à travers ce cours. Et il faudra faire attention à une chose, c'est que si vous regardez, il y a un sens. C'est-à-dire, ça c'est les faces extérieures du dessin, les faces extérieures des boîtes. Si vous vous trompez, alors à l'assemblage, ça sera à l'envers. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est le genre de petit détail qui a l'air assez anodin, mais vous verrez que ça peut facilement arriver. Et ici, on voit bien que les calques ont été bien séparés par couleur, ce qui permet derrière de donner aux calques des caractéristiques et d'être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Si les caractéristiques sont pas bonnes, c'est pas compliqué, la découpeuse laser voudra pas faire le job comme vous voulez qu'il soit fait, et donc ça marchera pas. Pour les caractéristiques des découpes, vous prenez pas la tête, on a déjà des... Enfin, vu que c'est du MDF 3 mm, ça sera des valeurs qu'on a déjà, il suffira juste de réécrire ces valeurs. Ça, pareil, je pourrais vous les redonner si besoin. Et voilà. Donc... je pense que c'est pas la peine d'en dire plus, de toute façon ça sera en faisant qu'on sait. Donc le Makerspace, il est dans le bâtiment Coriolis, au premier étage à gauche quand vous rentrez. En gros, vous rentrez dans Coriolis, vous allez à gauche, il y a un escalier, vous le prenez, vous montez, vous allez au premier. Et c'est là. Si jamais vous n'avez pas de compte, ça va être difficile de vous inscrire à la formation initiale, parce que malheureusement, c'est pas très malin, mais il faut avoir un compte pour pouvoir s'inscrire. Donc le mieux c'est de m'envoyer un mail et à ce moment-là je peux vous former. Alors pourquoi ça va être intéressant de vous former? Parce qu'après vous pouvez réserver les machines, ce qui est quand même à mon avis un peu un gros problème vu le nombre que vous êtes, pour pouvoir avoir le temps et l'usage de la découpeuse laser, parce que vous n'êtes pas les seuls dans l'école. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je pense que c'est tout, je ne sais pas, je crois que c'est tout.
Peut-être qu'il y a des questions.
Ouais. Exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est les couleurs. Les couleurs qui sont utilisées ici, elles ont un sens à cause de la découpeuse laser qui donne des caractéristiques aux couleurs. Si vous donnez d'autres couleurs, alors on lira pas le travail dans le bon sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un ordre de passage. Par exemple, imaginons, je découpe quelque chose à l'intérieur de cette forme. Le problème que je vais avoir, c'est que cette forme, elle est plus petite que la grande forme que je fais. Si je la découpe après la grande forme, alors il se peut que mon laser se soit défocalisé du fait qu'en découpant la pièce est légèrement tombée. Vu que c'est un laser et que c'est une lentille, et que c'est une focalisation, même un dixième de millimètre, eh ben, on est défocalisé. Donc du coup, on découpe mal. Donc, l'idée de découper dans le bon ordre, avec les bonnes couleurs, est très 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 importante.
Alors, pour regarder l'information, comprendre un peu le passage de l'art ici, vous voyez, ça c'est des découpes de base, sans découpage de trous. Et vous voyez le bord qui est bleu foncé ou noir, je ne sais pas, c'est noir peut-être.
C'est noir.
Le noir représente le bord qui est celui que vous voyez ici. Avec, notamment, vous pouvez remarquer les trous qu'il y a, je ne sais plus indiquer ici. On a les trous qu'il y a là, et les redans qu'il y a ici, qui vont correspondre au montage, effectivement, c'est l'assemblage. Okay? Donc ça, vous n'avez rien à faire, c'est déjà dessiné. Et ce que vous avez à faire, c'est dessiner les trous intérieurs. Donc, vous voyez, c'est aussi un noir, parce que c'est des trous qui traversent. Et puis, vous pouvez, il y a des signaux qui sont en rouge, qui représentent des marquages, donc des cinq lignes de profond, voilà, informatique qui sont éventuellement parfois, par exemple, bon nom pourront être indiqués comme ça, qui permettent en fait d'avoir des signes, qui permettent de repérer les faces, par exemple. Alors, important, donc, Julien l'a dit, on regarde toujours, et on n'oublie pas, on regarde toujours la pièce de l'extérieur. Et il y a autre chose, il faut aussi la regarder dans le bon sens gauche-droite. Donc, suivez le sens qui est donné de l'exercice. Il y a pas mal de fois d'erreurs. Plus qu'intérieur et extérieur, je dirais que ça c'est le meilleur qui peut se présenter, mais qui est plus rare. La plupart des cas, l'erreur c'est évidemment de construire gauche, d'échanger la gauche et la droite de la foule. Donc, afin d'éviter les erreurs, tout le monde regarde la même gauche, la même droite, c'est celle qu'on trouve dans le fichier, dans les livres, dans toutes les informations qu'on nous a données. Les informations sont cohérentes, ne modifiez pas celle-là parce que vous me trouverez de manière à ne pas pouvoir rentrer dans l'assemblage.
Ouais, le mieux, c'est juste de modifier le calque qui correspond au dessin, parce que c'est en fait juste là où vous intervenez, sauf si vous voulez ajouter des informations supplémentaires comme votre nom ou des choses comme ça, ou des numéros. À ce moment-là, vous pourrez utiliser peut-être le calque rouge, là, par exemple ici, qui est utilisé principalement pour donner des informations en supplément. Voilà, je vous invite à vraiment rester sur les mêmes valeurs de couleurs, histoire de ne pas s'embrouiller, parce qu'après, ça devient assez vite compliqué, parce que vous êtes nombreux. Hein.
Ok, bon, merci.
Peut-être
que je le garde, comme ça, s'il veut le toucher, je peux le rapporter plus tard.
Ok, bah, de toute façon, je peux négocier.
Maurizio,
oui.
Sur les portées, sur les parties assurées, c'est là où on va mettre les connexions.
Oui, alors là, c'était les marques de pinces, mais c'était un modèle. De... non, c'est ce modèle-là. C'est 23, c'est 23 où, effectivement, à cause de la présence des pinces, même si vous réalisez des versements, ils ne seront pas visibles. C'est pas la peine de les faire. Ça vous donne l'empreinte de, à la fois de ces pinces. Alors là, le moment est plus ouvert, évidemment, parce que c'est plutôt comme ça. Et donc, vous voyez, il y a une marque qui, d'ailleurs, est reportée ici. Donc, je vais un peu plus par là. Et il y a aussi une marque qui correspond au passage. Ce marquage rouge que vous voyez à l'écran correspond au pince qui permet de faire l'assemblage. Évidemment, il faut avouer que entre les problèmes théoriques qu'on traite, et le problème réel généré par l'assemblage et tout, on n'est pas vraiment aligné. Donc il faudra nous faire être un bon indulgent par rapport au rôle de ces pinces, que manifestement vont modifier pas mal, je peux comprendre. Mais bon, ça reste un exercice scolaire et on fait avec des moyens relativement simples pour le faire dans les temps de l'année.
Oui, pareil sur les plannings. Enfin, on verra exactement, mais à savoir qu'au-delà du 28, enfin, en tout cas moi le 29 et le 30, je ne suis pas dispo. Donc je vous conseille fortement d'essayer de faire que ce soit fait avant. Parce que moi ça fait, il y aura deux jours où je ne serai pas.
On va organiser le planning à un autre démarche, parce que malheureusement les scènes ne seront pas faites en présence, et donc on peut le faire quand on veut pour ça.
Okay.
On a de l'élasticité au moins dans ça.
Ça peut être bien en tout cas de venir, enfin même de m'envoyer pour que je vous crée un compte, histoire juste que comme ça pour les plannings c'est plus simple. À vous de voir.
Donc disons que le message est que nous ne sommes pas trop stressés par rapport à la date d'échéance finale. Malheureusement, nous avons pas d'inconvénients au moment où on a ces avantages, mais cela ne signifie pas qu'il faut s'y prendre très en retard. Il faut quand même plutôt se prendre un peu à l'avance et puis faire. Passer un peu plus de temps de réflexion sur la découpe finale que vraiment arriver à la dernière minute parce que les machines évidemment sont utilisées par beaucoup de monde à l'école et donc il y aura un peu et voilà, et ça risque de, si vous êtes trop tard dans la queue, ça risque de retarder la rendue et puis peut-être rendre impossible le test. Merci, Lilian. Tu arrives à t'appeler ?
Oui, je te récupère.
Merci. Alors, je vous retiens encore quelques minutes pour compléter la question du problème. Donc, ceci est le réseau de lignes nosotiques à distance équivalente à une contrainte de Fresca donnée qu'on peut calculer et que vous êtes en mesure de calculer. Évidemment, pour obtenir ce dessin, je ne vais pas dessiner à la main en calculant les lignes point à point, mais j'ai fait un programme qui calcule à chaque point où il tombe, calcule les configurations principales des contraintes, et il prend, il dessine une ligne qui prend ces points, la direction tangente à ces directions calculées, il tombe ainsi dans un autre point, et ainsi de suite, donc de proche en proche, il trace l'ensemble des lignes. La couleur bleue représente ici les tractions, la couleur rouge les compressions. Alors, puisque je trouvais moche, de prendre ces réseaux-là, je me suis donné une règle différente entre la contrainte de Tresca moyenne portée à gauche et celle qui est portée à droite.
Donc c'est une règle que j'ai choisie comme je veux, et je l'ai pris de telle manière à avoir deux réseaux qui se rassemblent dans le but de la dimension moyenne de cellules. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'information qui me donne cette image? Elle est en train de me dire, enfin je sais d'ailleurs, l'image ne me dit rien, mais je sais. Attention, par rapport à la ligne qui se trouve à gauche, tout ce qui est à droite de cette ligne est fait avec une densité de contraintes de Fresca plus grande de celle qui est à gauche. Donc, cette information va se réfléchir plus tard dans la découpe des pièces. Donc, partons de ces réseaux. Vous comprenez qu'il y a une infinité de manières de tracer ces réseaux. Donc, ceci étant la solution du problème, si j'avais décidé de me placer avec des lignes bleues un millimètre plus en bas, ou des lignes rouges un millimètre plus à gauche, peu importe, évidemment, j'aurais eu un autre dessin. Certes, le dessin se rassemble, parce que c'est quand même la même solution, et c'est ce qui va se passer dans votre solution. Vous avez tous dessiné la même chose, mais en choisissant des réseaux qui sont forcément différents, sauf grande probabilité très faible, disons grande chance, que deux groupes choisissent exactement le même point de départ pour tracer leur réseau et la même densité, ce qui est assez improbable. Donc, grosso modo, vous avez tous une base de départ qui est à la fois la même, la réponse au même problème, mais qui est une réponse différente. Et ensuite, le concept optimisé consiste à dire, bon, puisque la matière se rompt essentiellement à cause des contraintes tangentielles, vous voyez, la contrainte de Fresca ou la contrainte de Moniz sont en bon, une bonne pondération de la distance par rapport à la rupture. Et dans ces deux mesures, vous avez un racine carré de sigma carré plus 4 taux carré pour la contrainte de Fresca ou 3 taux carré pour la contrainte de Moniz. Donc on comprend que la contrainte tangentielle compte entre racine de 3 et 2 fois plus que la contrainte normale d'égale valeur numérique, d'égale intensité. Et donc, ce qu'on observe en effet, c'est que la rupture se produit davantage à cause des contraintes tangentielles qu'à cause des contraintes normales. Et donc, c'est logique d'imaginer que si je peux réaliser un matériau dans lequel, ou un objet dans lequel les lignes qui sont là sont des lignes qui portent des efforts, et les lignes, enfin, entre ces lignes, dans les zones antérieures aux cellules, il n'y a pas de matière, donc du coup, on aura une sorte d'optimisation de la matière utilisée, parce que toute la matière sera utilisée pour travailler seulement en compression, en traction, et rien ne sera utilisé pour travailler en cisaillement, en contrainte tangentielle, en fait. Donc, le concept d'optimisation consiste à se donner des règles qui sont expliquées afin d'enlever la matière et laisser la matière seulement là où il y avait les lignes de direction principale. Voilà, ceci, c'est le résultat de cet algorithme. Donc, le blanc, évidemment, représente la matière, le noir, le manque de matière. Et on voit que les lignes hydrostatiques sont, enfin, les branches du réseau portées par les lignes hydrostatiques sont de plus en plus épaisses quand on marche le long d'une ligne, qu'on s'approche des zones où la densité est importante, parce que c'est des zones où la contrainte de Fresca alimente et donc le besoin de plus de matière, et au contraire, quand elle devient de plus en plus fine, on s'éloigne de ces zones de densité plus grande des lignes, parce que c'est dans ces zones-là on a moins d'efforts à porter. Donc là, ceci se voit relativement bien, je pense, dans les images à gauche. C'est vrai partout, c'est une construction évidemment numérique, donc la loi étant établie la même pour tous les points, après c'est juste l'application numérique qui donne ce résultat. Donc ça, c'est une possibilité, on peut réaliser une poutre comme ça. Et c'est-à-dire qu'on peut découper, on peut programmer le fichier que Lilian Roussel vous a montré, on peut le programmer pour générer ces lignes. Et donc voilà, c'est toujours un dessin tridimensionnel, les quatre faces d'une poutre qui étaient découpées, ou qui pourraient être découpées avec la procédure précédente, en choisissant les passages précédents. Et voilà la même poutre vue. Donc ça, c'est l'objet qu'on vous demande de produire. Il ne sera pas exactement comme ça, pour des tas de raisons. Tout d'abord parce que vous n'allez pas choisir le même réseau que j'ai mis comme exemple dans mes livres. Et puis, surtout sur ça, si vous ne faites pas d'erreur, puis vous aurez peut-être quelques petites erreurs par ici, par là. Ce ne sera ça va pas bien pas. En tout cas, tout le monde ne fera pas les mêmes découpes. Et puis évidemment, je peux aussi choisir de ne pas tout enlever, donc de modifier la logique, d'écarter davantage les lignes, les rapprocher davantage, de faire des plus grands trous, des plus petits trous. Il y a des tas de choix que je ne vous ai pas dit, mais que vous trouverez à faire et qui vous amèneront à avoir forcément des structures différentes. Voilà, étant donné une structure, on la met dans les tests et on voit si effectivement elle respecte les cahiers des charges et la démonstration de son respect du cahier des charges vient du fait, mais devra du fait qu'elle ne rompt pas. Donc ça, c'est des tests assemblés à l'école. On voit que certains ici, par exemple, avaient effectivement adopté un réseau relativement fin, d'autres avaient opté pour quelque chose de beaucoup moins fin. Il faut dire qu'à la différence de vous, dans les années précédentes, ils n'avaient pas vu la solution telle que je la montre dans les livres, et donc ils étaient toujours dans l'incertitude. Est-ce que je fais plus de trous ou pas? Parce que là, vous avez un avantage, je ne sais pas si c'est un avantage. On joue, on s'amuse au moins à jouer, je pense, une fois qu'on sait si on se trompe. Et donc, voilà, vous pouvez tester votre résultat par rapport à ce qui est donné dans les livres, et comme ça, éviter éventuellement corriger si vous faites des erreurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on écrit un programme qui est capable de calculer en tout point de la toute développée, comme je vous ai montré, capable de calculer en tout point cette toute direction principale, sans forcément tracer les lignes pour l'instant. Donc simplement un programme qui est capable de calculer les moments persistants, les points tranchants et les moments tension à un point donné, appliquer les formules de Navier, Jouraski et Brecht pour calculer les contraintes, appliquer la formule que à partir des contraintes dans les directions principales, basta. On va vérifier que le programme que vous fabriquez aujourd'hui et qui est censé faire ces calculs est correct. Il suffira de regarder ici à un point donné, il donne bien la solution qui est indiquée dans les livres. Et comme ça, la semaine prochaine, on pourra passer au traçage des lignes à proprement. Les logiciels, ça peut être n'importe quel logiciel pour programmer des équations. Donc, Python par exemple, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de calcul numérique à faire, c'est qu'il y a des calculs analytiques. On connaît la solution et on programme tous les traçages. Donc c'est très simple, oui. Un code partout, c'est pour ça que je vous demande de travailler ensemble, parce que ça récicode les outils, en fait, comme ça, vous pouvez collaborer. Donc, il s'agit effectivement de programmer un seul script par le byte. D'autres questions? Oui? Oui. Alors, on s'est rentré. Oui. Alors, petite question, j'entends derrière sa question. En fait, vous programmez par exemple Python, vous savez tracer les courbes. En fait, on vous demande de donner les courbes des ICF, donc des fichiers totales. Donc là, la question c'est qu'il faudra savoir exporter une courbe dessinée par un logiciel de quelconque de marque. Dans un format et que c'est bien normalement possible. Vous avez une question? Peut-être que vous répondez à la race alors. Oui, vas-y.
C'est des groupes de combien de personnes?
6. En fait, il faut faire 18 groupes. Donc, il y aura des groupes de 7 aussi, mais la majorité des groupes, c'est pour des 6. Alors, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'à partir du moment que les groupes de TD ne sont pas forcément composés par le nombre de personnes qui font des multiples de 6. Il est normal, plus il y aura éventuellement de réversement des gens d'un TD à l'autre, oui, c'est normal, c'est comme ça. Mais ben, une ne personne pas deux fois 6 personnes qui passent d'un TD à l'autre, ce ne serait pas ça, ce serait pas la solution du problème. Bon, on peut passer après des classes, parce qu'on a du boulot à faire. Merci. J'imagine que beaucoup d'entre vous, on verra.
sens qu'elles n'ont pas forcément un récipient tout là, mais j'insiste pour que vous gardiez vos distances. Franchement, on n'en sait pas trop de cette histoire, mais ce n'est pas la peine de s'indiquer la vie pour un récipient. Tant que possible. Okay. Donc vous êtes assis à côté, j'imagine que vous aurez l'habitude de vivre à côté, ou sinon vous mettez le moins. Ok, alors, sortez vos ordinateurs. Il faut travailler sur les ordinateurs. Ceux qui n'en ont pas, je ne sais pas que c'est. Vous pouvez prendre des noms, faire ça après ce que c'est pas compliqué ce que vous faites, c'est même pas comme ça. Donc le problème que j'ai vu aujourd'hui, c'est de faire ce que vous avez fait pour l'exercice individuel, de le faire de manière collective et à l'aide d'un programme. Donc, question qui n'est pas de caractère, pour ainsi dire, correctionnel. Qui a déjà fait l'exercice individuel? Moi, je l'ai fait il y a quelques années. Sur le sol, je suis à l'avance. Ok, bon, donc, du coup, puisque vous ne l'avez pas fait, là, vous ne savez pas le bon cas. À peu près. Donc, ce n'est pas inutile d'être entendu, parce que c'est pour ça que vous voulez le bon cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice individuel? Est-ce que vous pourriez le dire? Je ne vous demande pas de répondre à l'interrogation, je vais le dire. Ceci est une image qui me permet de voir, d'un seul coup d'œil, l'ensemble de la poutre. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Ce n'est pas un problème. C'est la poutre qu'on étale sous les plans. Ça fait un développement plat de la géométrie. On étale toute la géométrie en deux. Donc, si je prends un point quelconque dans cette représentation, ce point va représenter un point donné sur la poutre, qui pourra être donc un point ici, un point là, etc. etc. Okay? Qu'est-ce que je vous ai demandé de faire dans l'exercice individuel? C'est de vous placer un quatre points quelconque, différents, pour faire l'exercice, et dans ces quatre points, calculer la valeur par les diagrammes. Donc, quatre points, c'est évidemment quelque chose qui correspondra à des sections droites. Donc l'exercice est le suivant. On choisit deux sections de droite. Donc par exemple, je prends celle-ci et celle-ci. Et pour ces deux sections de droite, je trace entièrement les diagrammes de contraintes tangentielles et normales. Ok? Ça, vous savez faire, c'est un peu. En fait, je vous ai donné même le diagramme I. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est calculer les valeurs dans les angles. Parce que le I, le diagramme, ne va pas changer. Une fois que je fais ceci, pour deux sections, je peux me concentrer sur une section donnée. Donc je me concentre par exemple sur la section qui est là. Je viens sur cette image. Cela signifie regarder tous les points qui se trouvent sur une ligne de coordonnées égales. D'accord? Donc là, les sections, on les lit comme ça. Je prends deux points quelconques de cette section et dans ces deux points, je calcule le cercle de temps. Alors ça, c'est l'exercice individuel. Ok? Donc, pratiquement, quand on fait un programme numérique, pour toute la poutre, je fais quoi? Je n'ai pas besoin de choisir deux sections et deux points par section. Je vais mettre dans une section arbitraire. Je vais, par exemple, indiquer par X la coordonnée horizontale. Et je me mets dans un point arbitraire de la section spécifique. Je vais référer par Y les points verticaux dans ce diagramme. Et donc, pour tout point X, Y que je veux prendre dans ce plan, je vais être capable d'identifier la valeur de sigma, la valeur de taux, l'angle phi formé par la direction principale des fractions avec l'axe x, et évidemment 90 plus phi, ça sera la direction principale des compressions avec le même axe. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut programmer. Donc il faut programmer la fonction, quel est le flux logique qui nous amène à ce programme, c'est très simple. Évidemment, il y a quelque chose, un choix d'un point x, y dans le plan. Donc, pour tout point x, y, je dois être capable de calculer m, ce sera seulement une fonction de x, v, qui sera seulement fonction de x et tel qui sera seulement fonction de x.
Ça, ce sont les trois valeurs de cette forme intérieure telles que données dans le livre ou dans l'énoncé et qui sont tracées ici. Voilà. Ces trois fonctions, les fonctions de x, et on peut les programmer. C'est très simple, il s'agit en fait, on aura des if, on aura des conditions, parce qu'en fait on sera pour x inférieur ou égal à l sur 3, ou à 2l sur 3, on aura des fonctions continues. Donc, c'est programmer ces trois fonctions implique identifier la zone dans laquelle je suis, donc si x est continu entre 0 et l sur 3, entre l sur 3 et 2l sur 3, et entre 2l sur 3 et l, dans ces trois cas, j'aurai des fonctions différentes à programmer. Donc, dans ces trois cas, je vais écrire du coup fdx égal, et il y aura des valeurs numériques et quelque chose qui est linéaire en x, comme on voit dans les images qui sont là. Chaque fois, il n'y aura pas de transformation franchement difficile à faire pour obtenir ceci. Une fois que je fais cela, je vais programmer pour une valeur de m donnée. Et alors, si je regarde les paramètres qui vont rentrer en jeu, ici, il y a des paramètres qui vont rentrer en jeu, c'est la longueur L, et c'est la force P par laquelle on charge la boucle. Donc ça, ce sont des paramètres qu'il faudra injecter dans le modèle numérique à ce moment-là. Évidemment, les paramètres, je vais les mettre à la tête de mon programme pour pouvoir les voir tout d'un coup, mais ils vont intervenir au fur et à mesure. Après, donc, je veux calculer et la contrainte sigma, donc la contrainte normale, ça c'est la formule de Navier, sera elle fonction de x et de y, parce que évidemment elle dépend non seulement de la valeur de m de x, mais aussi de la cote. Et donc ça c'est une fonction de x et de y. Et pour calculer sigma avec la formule de Navier, je vais introduire les moments d'inertie de la section et la hauteur de la section. En fait, les moments d'inertie, vous pouvez les calculer à mon propre tour parce que vous avez la géométrie de la section qui vous donnait, donc VH et l'épaisseur E. Donc on avait même fait l'exercice au tableau. I est calculé à mon propre tour. À l'aide de la formule de Jouraski, donc là je mets entre parenthèses ma vieille. Ceci, c'est les diagrammes donnés. Donc là, je mets entre parenthèses Navier, pour dire que c'est la formule de Navier, ça me donne sigma. Là, je mets Jouraski. Et j'obtiens tau dû à l'effort constant qui sera fonction de x et y. Alors là, je vois apparaître un autre paramètre qui entre en jeu, c'est l'épaisseur E. Parce que dans la formule Jouraski, vous avez V, S étoile, et en bas vous avez I, E. Okay, c'est l'épaisseur de la forme. Okay. Et puis, à l'aide de la formule de Breck, vous calculez T dû à la torsion, qui sera aussi. Bon, c'est une fonction de x et de y un peu particulière, parce qu'en fait, la valeur ne dépend pas de y, mais la direction, oui, donc en fait, vous aurez en réalité une valeur qui ne dépend pas de y, mais qui aura une direction constante dans ton parcours. Donc, notamment, si y, que je vais dessiner là, c'est bien 0, tau sera une constante par rapport à y, qui est faute négative. Donc là, on va apparaître une troisième grandeur, c'est oméga. La surface moyenne qu'on utilise dans la formule de Breck. Est-ce que vous avez des questions pour en arriver là? Programmer ça, c'est vraiment en fait de quelques minutes. Alors, débaguer continuellement, parce que c'est quand l'erreur se produit au bout de trois jours de travail, on ne sait jamais où il est. Je vous la conseille, on va passer quelques temps à essayer d'écrire des trucs, mais ce n'est jamais du temps perdu de débaguer tout de suite, chaque fois que vous écrivez quelque chose. Vous êtes sûr que jusqu'à là, c'est bon. Quand vous aurez une erreur qui s'est produite après, vous n'avez pas vraiment besoin de la montée plus haut, un certain temps.
après votre programme cristalline. Okay.
Bon, une fois qu'on a calculé sigma tau v et tau t, là on pourra calculer tau. Là, c'est la somme algébrique des deux, parce que les deux ont un signe, et surtout ils ont un référentiel par rapport auquel ils sont tracés. La formule de Brecht nous donne une corde qui circule, enfin, normale à la corde qui circule dans un même sens le long de la route, alors que la formule de Jouraski s'appuie sur le concept de S étoile, et nous donne donc aussi une corde qui circule sur la section droite, mais pas du tout avec la même règle de la formule de Brecht. Donc il faut regarder bien à quelle zone de l'article que je suis, si je suis là, là, là ou là, avant de choisir quelle est la somme algébrique des deux, enfin quels sont les signes des deux termes sommés algébriquement. Ça paraît plus compliqué à dire, mais quand on le fait. Regardez le diagramme des contraintes, vous ne pouvez pas vous tromper dans la somme. Okay? Mais attention, regardez bien le diagramme des contraintes. Alors, en ayant calculé sigma et tau, ces deux informations vont arriver ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire les calculs, enfin, on va pouvoir tracer les cercles des morts. Et cela signifie donc qu'on va pouvoir identifier à la fois la contrainte moyenne, la contrainte de Tresca et surtout ce qui nous intéresse, la direction qu'on va noter alpha. Alpha est l'angle entre la direction principale sigma max et x. Alors attention, avec x, on a aplati la surface latérale sur le plan. Donc à un moment donné, on se trouve très pêche. Vous êtes un petit animal, je ne sais pas si vous êtes petit, mais un animal, qui circule là, comme ça. Donc vous parcourez cette face en montant, cette face, la tête en envers, en descendant. Okay. Donc, dans la représentation que vous avez au tableau, tout à l'heure au tableau, avec les six zones, je ne sais pas si c'est 4 ou 3 ou 12 zones qui apparaissent, attention, vous avez un sens Y du bas vers le haut. Lorsque vous parcourez ce sens Y, vous êtes en train de tourner la tête quand vous imaginez de vouloir connaître un réseau dessiné ici et un réseau dessiné là. Okay. Donc, faites attention à ces mouvements de direction qui est propre de ce déroulement dans le plan, très pratique pour tout visualiser, et qui signifie que vous êtes en train de travailler sur la surface, par exemple celle-ci, en la regardant de droite, et l'autre, en la regardant comme ça. Et donc, quand vous portez les informations qui doivent aller en fait dans le plan global, ça peut générer des erreurs. Faites attention à ça. Ok. Alors, évidemment, alpha est une fonction de x de y. Ça va de soi que si vous connaissez alpha, vous connaissez alpha plus 90, ou 90, ou moins 90, qui est la direction de la contrainte sigma min. Donc, je ne vais pas plus de la calculer, ou vous pouvez vous la calculer aussi. Avec, quand vous arrivez là, vous avez un programme que pour chaque point xy vous donne alpha et xy, c'est tout ce qu'on veut. Et là, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Là, si vous pouvez, plus tard, et ensuite, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'on va faire après? Après, on va faire la chose suivante. Donc, on a ce programme que pour chaque point de xy, on est dans la fonction alpha de xy. Et je veux tracer, donc là je tire une ligne, je me repose, et quand je me réveille, je partais dans la connaissance de A, de alpha, et je veux calculer, je veux dessiner une ligne de
contraint. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois procéder, et là il va falloir construire des vecteurs. En fait, une ligne va être une ligne va être une liste de points. Donc évidemment, une ligne, c'est un ensemble de petits segments qui vont d'un point à l'autre. Donc, ça résume par la donnée d'une liste X, bien que Z, avec un indice N qui varie entre 1 et le numéro qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on va faire pour un X, Y, N donné? Il faut se donner la loi qui me donne X de Y, N plus 1. Ok, quelle est la loi qui me fait passer de X, Y, numéro N à N plus 1? C'est simple. C'est que je me balade avec l'angle alpha. D'accord? Donc c'est simplement x, y, n plus 1, c'est égal à x, y au point n plus cos alpha, sin alpha, qui sont des fonctions de x et y au point n. Multiplié par un scalaire que j'ai choisi comme je veux. Je l'appelle epsilon A, pour dire qu'il est petit. Il représente quoi? Ça représente directement quelque chose qui va donc tendre vers 0. Ça me donne de combien je parcours la tangente de l'angle de la ligne avant de m'arrêter sur un autre point dans la ligne. Alors évidemment, vous n'arrêtez pas sur un point dans la ligne, vous arrêtez sur un point qui est un poil plus du côté de la convexité de la ligne. Bon, c'est pas grave. On pourrait évidemment chercher à converger, c'est-à-dire à prendre un epsilon un peu plus grand et s'amuser à trouver une formule incrémentale qui corrige l'erreur commise. Dans les images que j'ai faites, je vais tester pour voir ce que ça donnait en changeant epsilon, quand on le prenait égal à je vous dirais combien, et il n'y avait pas de changement significatif, donc c'est le travail qu'on utilise. Alors, de combien il s'agit? J'ai fait la décision que j'avais pris. Franchement, je ne m'en souviens pas, mais je vais vous dire. C'était un dixième des axes. Dans les livres, vous avez l'annexe, donc de page 328 un peu plus tôt, annexe 2, page 327, dans laquelle il y a un algorithme pour tracer ces lignes un petit peu plus évolué dans le sens qu'on en trace deux familles. Donc là, c'est pour tracer une ligne. Donc vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez, vous tracez une ligne de cette. Il y a donc là, tracer une ligne ISO en partant d'un point qui est x, y, 0. Chaque fois que j'ai choisi une famille de points x, y, 0, je trace une famille de lignes isostatiques. Le choix de ces points de départ est un choix qui vous appartient. Vous le prenez comme vous voulez.
Alors, pour faire un test, vous avez dans le livre les calculs, vous avez les résultats des façades des lignes satellites pour une équipe sur deux appuis. Je mise en charge uniforme, comme ça, peu importe, en fait, c'est un moment que j'ai ça donné. Et vous avez aussi la théorie de traçage des lames, vous pouvez faire un test, on fera dans le but de déléguer votre programme. Faites, programmez cet algorithme qui est indiqué là, regardez si vos lignes statiques que vous obtenez rassemblent ou pas à celles que j'ai données dans le circuit en question que je vous montre. Voilà, c'est la situation. Donc ces lignes-là, vous pouvez les retenir, il faudrait que ce soit identique, en suivant en programmant la réunion de sujet qui est basée sur cette idée qui est du dessin d'une seule ligne, et qui a un choix de points de départ qui est un choix qui s'est fait sur cette ligne-là, avec une distance entre les points de départ qui est inversement proportionnelle à la distance par rapport au barissage. Donc si vous regardez la zone centrale, vous pouvez imaginer que dans cette zone on n'a que de la flexion, il n'y a pas de choix normal. Donc l'écart, si l'écart entre les lignes est proportionnel à la contrainte de Fresca, puisque en l'absence de taux, la contrainte de Fresca est égale à sigma. Donc si taux égale à 0, elle est égale à la valeur absolue de sigma, ben alors cela signifie que si je dois écrire, dessiner un réseau dont la distance est proportionnelle à ceci, je vais prendre des points qui sont proches en haut et qui s'éloignent de plus en plus quand on s'approche du centre. Donc je vais donner une loi de proportionnalité inverse entre la distance par rapport au centre et l'écart entre les points de départ. Et j'ai tracé une petite des points de départ. J'ai choisi un petit des points de départ ainsi fait et j'ai tracé une famille qui font s'indiquer et j'ai trouvé ça. Voilà, il faut savoir quelles sont les lignes d'extraction, quelles sont les lignes de compression. Ça, je pense que vous avez assez d'expérience pour pouvoir identifier laquelle appartient au code. Donc en tout cas les codes que je vous ai montré qui est l'annexe, je ne sais plus que l'annexe, c'est probablement, vous permet de faire ces calculs, donc c'est des choses de les programmer. Parce que donc on passe du calcul de cette salle routine, de ce calcul-là qui permet de tracer une ligne à partir d'un point, un autre calcul qui permet de tracer une famille de lignes. À partir d'une famille de points. Une fois que vous avez ça, en fait, vous êtes capable de traiter ces deux angles. Quelle sera la différence avec les angles qu'on doit traiter pour l'exercice? C'est que, en fait, les lignes d'orthographie sont un peu plus compliquées. Et du coup, il y a des fois qu'elles arrivent à sortir, pour ainsi dire, de la zone de calcul. Voilà. Vous pouvez constater que si je suis en train de tracer, par exemple, la famille des lignes. Imaginez que je veux tracer la ligne rouge qui est là. Là, je sors du domaine. D'accord ? Donc, si vous continuez à tracer l'équation, si vous avez défini les mx, my, etc., tout ça, même à l'extérieur, la ligne continue, mais ça n'a pas de sens. Donc, on s'arrête là. Donc, ça, c'est différent par rapport à des exemples précédents dans lesquels les lignes sont toutes contenues dans le domaine. Donc, c'est un petit quelque chose auquel il faut faire attention pour tracer ces systèmes. Il faut en fait se donner des points, et puis tracer des lignes et s'arrêter quand on arrive au bord. Donc vous devez avoir un contrôle ici, qui dit X, Y,
n plus 1 appartient au domaine? Si oui, je continue. Sinon, je m'arrête. J'enlève même un petit peu de ne pas dessiner un verre.
Mais bon, c'est une erreur de 1/10 de H, donc c'est pas grave.
Est-ce que tout le monde voit comment faire ça?
Moi, je pense que la semaine prochaine, vous pouvez venir avec un dessin qui ressemble à ça. Il ne ressemblera pas exactement à ça parce que vous allez tracer les lignes, comme je vous ai dit, vous allez sortir les trucs, donc vous allez tracer une autre ligne. Et donc, les choix de tous ces points initiaux, ça peut être un peu une perte de temps, donc je vous demanderai simplement de venir avec un logiciel qui vous permet de tracer ça, mais sans forcément avoir tout tracé. Parce que ça, ça comporte. Imaginez par exemple de vouloir tracer ici les lignes bleues. Là, c'est une ligne. Là, il y a une autre. La distance entre ces deux est proportionnelle à la diagonale de Tresca. Le travail qu'il faut faire pour les tracer vraiment proportionnellement est assez compliqué. Donc, je ne vous demande pas de le faire. Vous retracez les lignes à la main. C'est pour ça que je vous ai dit que votre réseau ne va pas être comme les miens. Parce que moi, j'ai fait un peu plus de travail pour y arriver. Afin d'assurer cette homogénéité par rapport à la condamnation de ça, je ne vous demande pas d'assurer. Ça ne changera rien, je pense. Ça changera au niveau de résultat final, mais pas fondamentalement. Okay? Parce que, à partir du moment que vous calculerez, par exemple, dans votre réseau, les efforts dans les lignes, tout réseau sera le même. Enfin, sera légitime. Donc, ce n'est pas une erreur de ne pas avoir un résultat dans lequel la densité des fonds statiques est également proportionnelle à la condamnation de ça. Possible, mais ça demande un peu trop de travail par rapport à ceux dont vous disposez au niveau du cas. Et donc, je ne vous demande pas de le faire. Alors, vous pourrez tomber sur un petit problème dans cet algorithme qui est lié au. Encore la méthode du Paul, que j'essaie d'expliquer ici par un dessin. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quand vous tracez une ligne isocéliste, chaque fois que vous déplacez le point, dans les nouveaux points, vous avez un cercle de mort très proche du cercle de mort précédent. Okay? Vous pouvez imaginer, par exemple, que sur un cercle de mort, vous déplacez un petit peu, comme il se passe entre la première et la deuxième image. Par exemple, les épaules tournent un petit peu dans le sens des aiguilles du monde. Okay? Donc imaginez d'être dans la condition qui est celle-ci. Là, vous êtes au point, par exemple, N. Donc au point N, je peux calculer les deux directions principales, donc la composante sigma tau sur la direction rouge et la composante sigma tau sur la direction bleue, elle résulte complètement de la donnée du cercle. Je passe sur les points à côté, ces calculs me donneront des valeurs légèrement différentes, donc les deux directions principales vont être un petit peu tournées. Et etc. Donc à un moment donné, je m'approche du point où on traverse avec la direction principale, avec cette direction principale-là, celle qui est ce qui va vers la contrainte minimale, on traverse l'axe X. Bah, en fait, c'est tout bête. Vous comprenez que si je veux tracer des lignes et que ceci soit cohérent, il faut que mon vecteur bleu ne change pas de direction à ce passage. Ah, donc, je suis en train de tracer la ligne. Imaginez ma main en train de tracer cette ligne. Donc au fur et à mesure que je passe de gauche à droite, j'ai la ligne bleue, je suis en train de tracer une ligne bleue, et ma ligne tourne dans le sens des aiguilles du monde. Okay? Donc je suis en train de faire un peu comme ça, tourne dans le sens des aiguilles du monde. Quand tu arrives sur la direction verticale, on traverse l'axe X. À ce point-là, à ce moment-là, si je fais le calcul algébrique, je me retrouve avec un vecteur qui s'est remplacé. Donc quand la ligne arrive aux projections verticales, elle revient en arrière. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qui vient de l'interprétation du signe de la direction normale, à la direction tendancielle de la ligne, venant de la méthode du pôle. Donc il faut faire attention quand ceci se produit. En fait, il faut changer le signe et il faut continuer dans le même sens. On continue dans le même sens. Et on continue à tourner, comme ça. Mais après, il ne faut pas rebondir et revenir en arrière. Ceci se produit seulement dans cette condition. Lorsque la contrainte principale des tractions traverse une tangente verticale, c'est la seule situation dans laquelle ça se produit. Donc, c'est expliqué. Si jamais vous voyez quelque chose de saisi dans votre résultat, une ligne très bondie, attention, c'est jamais le cas. Les lignes principales ne vont jamais créer de la tangente est continue. Il n'y a aucune continuité à l'intérieur de nos domaines, dans les quadrillages des 12 domaines sur ces domaines, il n'y a aucune continuité autorisée. La solution est continue. Vous voyez bien qu'on a ici des fonctions linéaires qui sont produites par nos socles. Ces fonctions linéaires donnent lieu ici à d'autres fonctions qui sont linéaires ou paraboliques, elles aussi continuent par nos socles. Donc les seuls endroits dans lesquels vous aurez des discontinuités seront les lignes, les discontinuités, donc les lignes AL sur 3 et 2L sur 3, et évidemment les traverses, les moments où on traverse les arbres, éventuellement. Et donc, celle qui se trouve à la main, le plus H, etc. Dans tous les autres cas, si vous êtes au corps de votre système, il ne peut pas y avoir, c'est les communautés de ces lignes, il ne peut pas y avoir non plus des points dans lesquels il y a plus de deux lignes. Et il ne peut pas y avoir non plus des points dans lesquels les deux lignes qui sont présentes ne sont pas 90 degrés. En chaque point, la solution se compose de deux lignes à 90 degrés, c'est pas ça. Donc, chaque fois que vous trouvez quelque chose de différent, vous allez venir là où vous avez marre de quelque chose. Donc ça, c'est pour vous prévenir en cas de préparation de cette étude. Bon, je vous propose de travailler à ça. Et le suivant, c'est pour vous.